créations graphiques sont partout. Dans la rue, les musées, sur votre smartphone, votre livre de chevet et j'en passe. Le but de ce podcast est de décrypter, de saisir la manière dont les marques et les créatifs entrent en résonance avec leur public. Au-delà des considérations esthétiques, nous souhaitons remettre en mots ce qui a été mis en image. Comment de l'idée passons-nous au sensoriel ? Comment de la sémantique passons-nous au visible ? La force des images est de rendre instantanément intelligible toute idée en se passant de longs discours. Pour cet épisode, nous accueillons l'artiste et designer Paolo Del Vecchio. Bonjour Paolo.
Salut Miguel.
Bienvenue dans La Potion. Donc dans ce podcast, nous invitons un dirigeant ou bien un créatif à nous parler de sa relation au graphisme et aux différentes formes de production visuelle. Notre but est de comprendre comment faire sens et provoquer l'essence du regardeur. Pour cela, chacun a sa petite potion, et nous allons alors tenter de comprendre aujourd'hui quelle est la tienne. Donc, Paolo, j'ai une première question avant de passer sur ton parcours. Je voulais savoir quelle est la première image qui t'a marqué dans ta vie.
Si je refais un petit peu mon parcours à l'envers, je pense que ça remonte à très longtemps quand j'étais petit, genre 3 ans peut-être. Je pense que c'était à la télé, ça devait être les courses de Formule 1. Je pense que c'était un petit rendez-vous familial déjà. Et ça m'avait particulièrement marqué par l'intensité de l'image, bien sûr le son aussi. Et avant de vouloir être artiste, je voulais être pilote de Formule 1.
D'accord. Tu sais que t'as fait du kart ?
Ouais, un petit peu. Donc le sport était déjà présent.
Ouais. D'accord. Bah du coup, ça nous en dit un petit peu plus sur toi. Mais du coup, on pourrait revenir voilà, sur où tu es né, quand tu es né.
Je suis né à Metz, donc en Lorraine. En décembre 1990, un dimanche à 10h17, juste avant Téléfoot.
Ah, un deuxième signe.
Je suis messin français d'origine italienne. Ça aussi, c'est encore un indice, c'est que en fait, je vivais dans la maison avec mes parents et mes grands-parents. Qui parlaient encore leur dialecte des années 50 du sud de l'Italie. Donc, on va sûrement après parler d'identité, de langage, que ce soit langage graphique, mais aussi langage classique, de frontières. C'est marrant parce que là où j'ai grandi, c'était un peu un microcosme où j'avais presque l'impression de passer une frontière entre l'intérieur de chez moi et l'extérieur.
Tu passes ton bac.
Deux fois. Non, mais ça, c'est particulier. J'étais en scientifique et j'avais une âme d'artiste, donc je pouvais pas.
C'est la même chose pour moi. J'ai de justesse le bac scientifique, mais après, tu te révèles, je pense, dans tes études supérieures. Donc, l'ébénisterie, c'était avant ou...
C'était entre l'art et le design. Enfin, d'accord. Entre le design et l'art. Donc, j'ai fait, après le bac, une mise à niveau appliquée à Strasbourg. Ensuite, je suis entré à l'ESSAT de Reims où là, j'ai pratiqué plutôt le design d'objets. Ensuite, il y a une petite interlude, une petite pause en ébénisterie. Donc, j'ai fait un CAP. Parce que j'avais aussi envie de découvrir aussi un peu la technique, parce que c'est vrai qu'en design on est sur l'aspect créatif des objets, etc., mais je trouvais ça bien aussi de découvrir la matière, quoi,
d'aller dans ce que tu pouvais concevoir aussi.
Ouais. Et du coup juste après j'ai repris le cursus DNAP d'ENSEP, mmh. Mais en école d'art à Metz, retour aux sources.
D'accord. Et c'est en parallèle que tu as commencé à écrire pour le 11 mondial ou...
Ouais, c'est ça. En fait, dès le début de mon post-bac, donc quand j'étais à Strasbourg, j'ai commencé à écrire pour un site qui s'appelle calciomio.fr, qui est un peu la référence football italien en français et donc en France. Enfin, en France, Belgique et tous les pays francophones. Et c'est un site voilà, où on est tous bénévoles, mais le fondateur, lui, est devenu journaliste pour l'équipe en Italie, et il y a certains de ces bénévoles qui sont devenus journalistes sportifs. Et moi, j'aimais bien ça, je faisais ça pour le plaisir à côté des études, mais je suis allé quand même jusqu'au, entre guillemets, le niveau professionnel, puisque j'ai pu travailler un petit peu pour le magazine 11 Mondial, pour un photoreportage notamment avec la photographe Tania Clément, et quelques articles aussi sur le football italien, et notamment un hors-série spécial Coupe du Monde où j'avais fait spécial Euro 2016 où j'avais fait le portrait de l'équipe d'Italie. Donc voilà, enfin, c'était vraiment un loisir, mais c'est vrai que je suis allé un peu loin dans le truc, et encore aujourd'hui en fait ça me sert dans mon parcours d'artiste.
Oui, parce que en fait c'est quelque chose qui te suit depuis toujours, cette passion pour le football.
Ouais, le football, la Formule 1, c'est un peu cliché pour un garçon, mais je sais pas, c'est un truc qui s'explique pas, qui est peut-être aussi dans la culture dans la culture italienne, je sais pas, sûrement. Et c'est vrai que dans mon travail de création, que ce soit en design un peu plus tôt et en art maintenant, c'est vrai que c'est des influences toujours présentes. Ouais.
Mmh. Oui, parce que après, je pense qu'en tant qu'artiste, t'as su, au-delà de ta passion première pour le jeu du football, t'as su, je pense, soulever des problématiques qui sont liées, qui entourent en fait cet univers du football et du coup de la diaspora italienne qu'on va développer juste après. Mais peut-être que ces éléments-là qui t'ont peut-être fait percevoir le monde du foot autrement et tout ce que ça pouvait impliquer au niveau identitaire, etc. Est-ce que ça t'est venu avec ta collaboration avec Marco Godino ou pas? Ou c'est bien avant?
Non, je pense que ça s'est fait plutôt parce que en fait, l'élément déclencheur, c'est 2006 quand l'Italie gagne la Coupe du Monde. Mmh. D'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire. Joyeux anniversaire à nous. En fait, c'est vrai que quand je fais une œuvre ou quand je crée un objet par rapport au football, je parle pas vraiment du jeu en lui-même. Je parle de tout ce qui peut tourner autour d'un point de vue sociologique ou géopolitique ou économique. Et je m'en suis rendu compte très tôt en fait que le foot avait un pouvoir je sais pas comment dire, universel, et qui pouvait toucher toutes les couches de la population, toutes les classes sociales, et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est l'aspect universel de la chose, et omniprésente en bien et en mal, parce que si je suis passionné de foot, je sais aussi reconnaître les côtés détestables du foot, et tout ce qui est sociologique, je m'en suis rendu compte à partir de 2006, quand j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir dans les familles italiennes du monde entier. Donc bien sûr je parle de ma propre histoire, mais après l'idée c'est d'élargir. Mais je pense que ça fait une bonne dizaine d'années que je suis conscient de ça. Et du coup, tu parlais de Marco. Nous, on a travaillé ensemble à partir de 2016 ou 2017, je crois.
D'accord. Et du coup, ouais, je voulais savoir l'influence que ça avait eu sur ton travail par la suite, parce qu'il a abordé certains thèmes qui se rapprochent des tiens. Je pense particulièrement au phénomène de migration. Est-ce que ça a eu une certaine influence concrète sur tes projets par la suite ou...
Bah, c'est vrai que on s'est rapproché aussi grâce à ça.
Parce que vous avez collaboré sur une biennale, c'est ça?
Ouais, enfin c'est surtout moi qui ai travaillé pour lui plus qu'une collaboration, mais pour la petite histoire, c'était un de mes profs en école d'art, et c'est vrai qu'on a vraiment bien accroché au niveau déjà de la nourriture, parce qu'on mange très bien ensemble, mais aussi au niveau des thématiques qu'on peut aborder. Il y a une œuvre de lui qui me plaît particulièrement, c'est Forever Immigrant, qui est un tampon qui tapote des milliers de fois ou des dizaines de milliers de fois sur un mur pour créer une sorte de vague. Donc on ne sait pas si c'est une vague migratoire ou un nuage ou des oiseaux, et donc c'est assez poétique. Et c'est vrai que donc il m'a demandé de le suivre sur la Biennale d'art de Venise 2019, et c'était vraiment une expérience incroyable parce que là on était vraiment dans le cœur de l'art contemporain mondial. Et en plus tu me demandais s'il m'a influencé, peut-être pas au niveau de des idées, parce qu'après chacun développe un peu à sa manière une même idée parfois, mais surtout il m'a influencé dans la façon de mettre en place les projets. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment un exemple parfait d'un artiste qui va au bout de son projet, au bout des choses, et c'est assez impressionnant à voir quand on travaille avec lui. C'est-à-dire qu'il peut faire un voyage de 10 000 km pour aller faire une photo. Et ça, c'est ce qui rend, je pense, son travail très puissant, quoi.
D'accord. Bah, moi, si j'ai voulu avant tout t'interviewer aujourd'hui, parce que comme je le répète dans chaque podcast, le but, c'est de faire le lien entre les pratiques artistiques et les pratiques appliquées, en fait. Pour moi, je pense que la frontière est de plus en plus floue et entre les deux, et que les marques essaient de plus en plus d'être sensibles et de créer des expériences, des univers, comme on essaie de le faire dans une production artistique. Et toi, par exemple, dans ta production artistique, il y a cette part de culture populaire. On parle de football, on parle de enfin, il y a cette création du maillot, en fait, qui est avant tout un support, qui est aussi un support publicitaire, en fait. Mais peut-être qu'avant de développer tous ces thèmes, on va revenir sur la genèse de Squadra Diaspora, donc qui débute en 2015.
Ouais.
C'est là que c'est avec l'exposition Imbrène Lecomte, c'est ça, en Belgique?
Ouais, exactement. Et en fait, c'est intéressant parce que dès le début, on voit que tout se croise et se mêle. C'est-à-dire que cette opportunité, je l'ai eue grâce à un journaliste. Enfin, aujourd'hui, c'est un ancien journaliste belge qui suivait mon travail à la fois de journalisme et créatif autour du football. Donc c'est des connaissances Twitter. À cette époque-là, je l'avais jamais rencontré, mais on se suivait mutuellement, et il m'a dit: écoute, il y a une expo sur le football qui aura lieu en novembre 2015 en Belgique. Est-ce que tu veux que je te mette en contact avec l'organisateur? Et j'ai dit tout de suite oui. Je pense que c'était vers mai-juin 2015. Et donc j'avais 4-5 mois pour réaliser une pièce, donc j'ai eu carte blanche. À cette époque-là, j'étais donc en école d'art, et j'avais déjà des questionnements liés à l'identité, aux doubles identités, au langage, etc. J'avais déjà réalisé différentes pièces, mais qui étaient plutôt soit vidéo, soit performative autour de ça. Et comme là, pour le coup, c'était une expo sur le football, j'avais envie de lier ces questionnements au foot, et ça s'y prêtait bien parce que effectivement, dans la culture italienne, même exportée avec la diaspora, le football a toujours été très présent, et c'est un marqueur culturel qui reste. Donc voilà, j'avais cette idée de parler de la diaspora italienne à travers le foot. Et au départ, j'avais pas spécialement une idée formelle très précise, donc je savais pas si ça allait prendre la forme d'une vidéo, d'une photo, d'une bande-son ou autre. Et c'est vrai que l'objet maillot, il est venu assez rapidement parce que c'est un objet déjà très fort et voilà, qui représente l'identité. Souvent, un maillot, ça représente un territoire, ça, ou, oui. une, ou une une zone. Là, pour le coup, c'est un maillot qui représente une histoire et un voyage de tout un peuple. Clairement, une diaspora, quoi.
Ça, bien précisément, on va en parler plus en détail après. Mais du coup, on va peut-être décrire pour les auditeurs comment s'est concrétisé ce projet diaspora. Donc, c'était un maillot de foot. L'objet en lui-même que tu as créé pour cette exposition, c'était cette version déjà pour.
En fait, pour l'exposition, c'était un proto, ouais. Un prototype que j'avais fait avec ma couturière. Donc, à la base, ça devait être un objet unique, sculptural, qui allait être exposé, etc. Comme une œuvre entre guillemets classique. Suite à cette expo, il y a eu des articles en Belgique, en France et en Italie sur des sites, différents sites d'art, de foot, etc. Et j'ai eu beaucoup de retours de personnes d'origine italienne qui me demandaient si je l'avais en S, si je l'avais en XL, ouais. Et où est-ce qu'ils pouvaient l'acheter. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi j'avais pas pensé plus tôt, mais l'idée de faire voyager l'œuvre dans le monde entier au même titre que la diaspora italienne, c'était ça qu'il fallait faire en fait.
Ça prenait tout son sens en fait.
Ouais, exactement. Donc pendant plusieurs mois, j'ai réfléchi à comment ça pouvait se mettre en place parce que je connaissais rien au monde de la mode ou du textile et heureusement j'avais une amie de la famille qui était dans ce domaine et qui m'a un petit peu aiguillé. Donc j'ai fait des semaines de recherche dans le sentier à Paris pour trouver le tissu adéquat. Parce que l'objet, je l'ai vraiment dessiné du début à la fin. J'ai pas commandé un stock en Chine pour poser mon dessin dessus. J'ai tout fait faire en France. Le tissu a été fait en France, près de Lille. Ils ont été sérigraphiés à Montreuil. Ils ont été assemblés à Troyes. Et donc ça me tenait à cœur déjà de gérer.
C'est made in France.
Ouais, exactement, c'est made in France et c'est aussi ça a aussi du sens parce que ça parle aussi du fait que tous ces migrants italiens très souvent ils ont réussi à s'intégrer à travailler avec et dans le pays d'adoption quoi. Donc ça faisait sens aussi de produire l'objet dans mon pays d'adoption, plutôt le pays d'adoption de mes grands-parents et de mon père. Donc, voilà. Je sais plus où je voulais.
On en était sur le maillot, on voulait un peu décrire à quoi il ressemblait. On était aussi sur tout le déroulement en fait du projet, parce que au-delà de cette création vestimentaire, si on peut le dire, il y a aussi les matchs performance.
Ouais.
Donc le premier, c'était en quelle année?
En 2018, à Metz.
2018. Donc c'était contre l'ASV Alaska, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En fait, si l'expo en Belgique a été peut-être la première étape, ensuite la production a été la deuxième étape, les matchs performance, ça a été la troisième étape, troisième grande étape du projet, c'est-à-dire que avant de développer ça, dans la deuxième étape qui a été la production, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a 500 exemplaires qui sont numérotés et signés, et les personnes d'origine italienne du monde entier peuvent commander l'objet et le personnaliser avec le nom de la famille migrante. Et en fait, ils sont invités à m'envoyer des photos d'eux dans le lieu de migration. Et ça, j'essaye de le faire au maximum, voire même de rencontrer les gens quand c'est possible et de faire des vidéos, des mini-interviews avec eux. Et d'ailleurs, le compte Instagram lui-même du projet, pour moi, fait partie de l'œuvre parce que c'est vraiment un support qui me permet de raconter le projet au-delà du simple objet, en fait. L'idée du projet, c'est de raconter des histoires et raconter les histoires des personnes, en fait. Et du coup, voilà, le support Instagram est très important dans le projet. Et donc, après ça, effectivement, l'idée, ça a été d'aller encore plus loin, de créer une sorte d'équipe nationale qui est en fait internationale.
Une dream team.
c'est ça, des personnes d'origine italienne dans le monde. Donc, en fait, l'idée, c'est de réunir des personnes, que ce soit garçons, filles et de tout niveau de football.
Parce qu'il y a des amateurs aussi.
Ben ouais, par exemple moi, j'ai rarement touché un ballon.
Oui, mais t'as marqué des buts aussi.
J'ai marqué, mais sur penalty, mais.
Ah bah, c'est déjà
mais bien. Non, ce qui est intéressant, c'est que dans ces équipes, il y a des artistes, des footballeurs pros, des journalistes, voilà, les footballeurs. Il y a un footballeur qui est international italien, donc bon, voilà, il a un certain niveau quand même.
Enfin, Nicolas
Sansone, ouais, qui est un petit peu le parrain du projet, le capitaine de l'équipe. Et à côté de ça, on a des personnes comme Kelly Mollon, qui est artiste, qui n'a jamais trop touché de ballon dans sa vie. Et voilà, c'est beau aussi de remettre tout le monde au même niveau et de parler d'un destin commun plutôt que d'un niveau, parce que le projet Diaspora, il raconte aussi les fêtes familiales qu'il peut y avoir autour des matchs de l'Italie pendant les grandes compétitions. Si je me souviens de ces matchs, il y avait mes cousines qui sont pas très foot à la base, mais en fait ça fait partie du jeu, de venir, de faire la fête, voilà, on mange tous ensemble, on est là tous ensemble, et c'est, le projet raconte ça, donc ça me tenait aussi à cœur de représenter toutes les personnes dans ce projet, quoi.
D'accord. Donc après ce match en 2018, comment a évolué le projet?
Du coup, il y a eu une deuxième édition en 2019 à Paris. Donc, le premier match a eu lieu à Metz, donc ma ville de naissance. Mais c'est aussi assez symbolique parce que la Lorraine a connu une forte migration italienne, mais pas que la Lorraine. En fait, on est au carrefour entre l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la France. Et donc, c'était un lieu stratégique pour pouvoir organiser ce premier match. Donc il y a des personnes qui sont venues de toute l'Europe quasiment, et ce qui est intéressant, c'est qu'on le matin du match, en fait, on a amené les équipes au Centre Pompidou à Metz, qui était partenaire du projet. On a déjeuné ensuite dans l'école d'art où je venais de passer mon diplôme, donc mon diplôme était encore accroché, donc on a déjeuné à l'intérieur de mon diplôme dans la galerie de l'école. C'était assez drôle. Et l'après-midi, donc, on était au stade Saint-Symphorien, juste derrière. On a joué sur le stade d'entraînement du FC Metz et de la réserve du FC Metz. Et donc, si le matin on a ramené le football dans le musée, l'après-midi on a ramené l'art au stade. Et c'est ça qui était aussi hyper intéressant, c'est que je me souviens de la directrice de mon école qui... Je crois qu'elle n'avait jamais vu un match de football de sa vie. En fait, elle m'a remercié parce que elle a découvert cette expérience, elle s'est prise au jeu et puis elle a aimé l'expérience. Donc c'était assez chouette.
C'est intéressant ce que tu dis parce que on a interviewé Romain Doré qui est un street artiste pour le deuxième épisode de La Potion, et il y avait cet élément qui était intéressant, c'était de faire sortir l'art en fait des musées. Et là, c'est exactement sur le même procédé, en fait. Tu as sorti l'art des White Cubes et tu leur as fait prendre une toute autre dimension sur un terrain, en fait.
Ouais, 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 c'est ça. Je trouve ça aussi important que, ben voilà, que l'art soit pas cloisonné et que aussi tout type de personnes puissent participer à l'art. C'est-à-dire que on a un petit peu ce problème dans l'art contemporain où peut-être la plupart des personnes ne comprennent pas, parce qu'il faut quand même être initié pour souvent, enfin je dis ça mais c'est pas vrai dans tous les cas, mais souvent c'est le cas, et je trouve ça important de casser ça et de ramener l'art partout, en fait, pourquoi pas sur un terrain de foot.
Donc t'as pas encore parlé de la collaboration avec Sciences Po?
Ouais. Donc ça a été un peu plus tard. Ça a commencé fin 2019. J'ai eu un contact avec l'équipe de futsal de Sciences Po Bordeaux. Et en fait, depuis un certain temps, j'avais envie d'ouvrir aussi ce projet diaspora sur les maillots. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Et en fait, à Sciences Po, il y a vraiment des personnes de toutes origines. Et c'est ça qui était intéressant. Ça m'a permis de développer le projet Diaspora International, qui en fait est un maillot où je avec une création graphique devant le maillot, donc là où habituellement il y a des sponsors, où là je retrace comme j'ai pu le faire sur le maillot Diaspora, Squadra Diaspora, avec une carte et une map monde et une onde. Là je dessine les frontières et un trajet qui a été fait par soit la personne qui porte le maillot, soit sa famille, ses ancêtres. Et donc là, je trace les frontières qui ne sont pas naturelles, donc qui ont été dessinées par l'homme, et en pointillé, je trace le trajet. Donc, encore une fois, je prends l'objet maillot à contre-pied, au lieu de représenter une zone ou une ville ou un pays. Il représente un trajet personnel. Donc chaque joueur de l'équipe avait sa propre création graphique en fait sur l'avant du maillot et un nom, un surnom, parce que en fait c'est la tradition à Sciences Po, ils se donnent des surnoms pour leur maillot à l'arrière. Donc Diaspora International, ça a été développé avec Sciences Po Bordeaux et le CA Paris 14, qui est l'équipe contre qui la Squadra Diaspora a joué en 2019 à Paris. Donc c'est intéressant parce que à chaque maillot, en fait, j'ai un lien avec le joueur et je demande au joueur de me faire un petit texte qui retrace sa propre vie. Et c'est intéressant parce que chacun reçoit le projet d'une façon différente. J'ai des personnes qui n'étaient pas super touchées, donc elles m'ont raconté ça de manière un peu basique. Et au contraire, j'ai eu des textes très touchants de personnes qui allaient un peu dans le détail de la situation familiale, etc. Et je trouvais ça beau. En fait, que ce soit dans Squadra Diaspora ou Diaspora International, les gens s'approprient le projet et ont tous un rapport différent à l'identité, au voyage, à la migration, à la construction de sa propre identité. Donc c'est toujours très enrichissant de faire un maillot, quoi.
Donc là, en fait, tu te situes à cette fameuse frontière dont je parlais tout à l'heure entre l'art et le design. Comment réussis-tu à lier les deux, en fait? Est-ce que tu penses qu'un artiste est designer? Est-ce que tu penses qu'un designer est un artiste? Et tu te considères plutôt l'un ou l'autre, ou les deux, ou à quel pourcentage? Ou en l'occurrence dans ce projet
Ouais.
précisément?
C'est la grande question à 200 000 $ du 21e siècle, mais
Pour ce projet, par exemple, tu t'es plus senti artiste? Designer.
Ouais, en fait, étant donné que j'ai connu l'école d'art et l'école de design, aujourd'hui j'ai plus tendance à me considérer comme un artiste dont le médium est le design. C'est-à-dire que souvent dans mes projets, effectivement, il y a de l'objet parce que c'est pour moi c'est une façon de rendre aussi l'art accessible. C'est-à-dire que voilà, il y a des artistes qui font de la peinture, des artistes qui font de la sculpture, de l'installation, de la performance. Moi, je ne ferme la porte à rien du tout, puisque tout à l'heure on parlait de performance avec Squadra Diaspora, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai tendance à produire des objets quand je veux créer une œuvre ou à me servir d'objets. Par exemple, j'avais fait une pièce avec une veste de costume de mon grand-père et ça a donné lieu à une performance. Mais étant donné que les objets sont des marqueurs culturels très forts et que c'est vrai que C'est vrai que j'essaye de faire toujours des œuvres qui sont accessibles. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, faire intervenir l'objet dans, en tant qu'œuvre d'art, en fait. Et faire vivre l'objet en tant qu'œuvre d'art.
Oui, parce qu'en fait, bon, c'est, je l'ai déjà dit sur, sur un précédent podcast, en fait, la différence entre l'art et le design, c'est ce que tu vas en faire. En art, tu explores et en design, tu exploites, en fait. Et après, il y a aussi une relation... aussi là en discutant à l'argent, parce qu'un produit de design en général c'est fait pour soit passer un message, soit pour être acheté, consommé. De toute façon la finalité est toujours la même à la fin. Mais est-ce qu'on peut dire que ton travail sur Squadra Diaspora par exemple c'est purement un travail artistique ou est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un... que ça ne l'est pas totalement étant donné qu'on peut acheter tes t-shirts. Et est-ce qu'un artiste, pareil, au même titre, qui vend ses toiles, c'est pas juste un designer, c'est un dessinateur en fait. Hein. Est-ce que c'est pas juste aussi un designer qui est... Et c'est peut-être de là aussi que vient le complexe avec des artistes sur l'argent, le prix de vente. Non, je fais ça pour l'art, pas pour l'argent. Tu vois, est-ce que...
Ouais.
Là, je soulève des grosses questions.
C'est vrai qu'on pourrait passer des heures à parler de ça, mais il y a quelque chose qui différencie, je pense, l'art et le design. C'est effectivement la finalité de l'objet, la fonction dans le design et peut-être la réflexion dans l'art. Même si, effectivement, il y a plein de designers qui de plus en plus voilà font des objets qui sont quasiment des œuvres d'art ou qui en sont
Ah, ça l'est aussi bah oui parce que dans les productions artistiques de design d'objets par exemple dont tu parles on avait un impératif de fonction avant tout je pense et aujourd'hui on se permet de plus explorer et ça devient presque de la sculpture en fait. Mais moi c'est encore plus fort dans le graphisme par exemple parce que je le disais tout à l'heure on a compris que de juste vanter les mérites d'un produit et de faire appel à la raison c'est pas ce qui faisait ce qui était le plus efficace tu vois avant acheter le Picasso, on peut rentrer à 7 à l'intérieur, c'est la meilleure voiture du marché. Et on a compris qu'il fallait plutôt faire rêver les gens. Et c'est pour ça que dans les pubs automobiles, on parle plus de sensations, de la route, santé, l'asphalte, tu vois, ce genre de choses.
Ouais,
et dans le graphisme, en tout cas, c'est aussi ma conception... de la discipline, on essaie plutôt de créer des univers singuliers, tu vois, avec des expériences qui vont plutôt traduire que ça soit une histoire, comme toi tu peux le faire, parce que moi je pense que c'est aussi un produit de design, c'est-à-dire que à travers ce maillot, tu vas raconter une histoire, traduire aussi voilà un sentiment d'appartenance, des valeurs. Et il y a tout cet univers qui est là. Et je pense que, sincèrement, la frontière est de plus en plus floue entre les deux. Et après, c'est vraiment ce qu'on va en faire, au final, l'exploitation de la chose. Et c'est pour ça que je te posais toute cette question. Est-ce que tu considères ça plus comme un travail artistique ou de design, et je pense que c'est l'un et l'autre, et ni l'un ni l'autre, en fait. Je pense que cette conception voilà, classique du message qu'on veut passer en graphisme, par exemple, il est un peu dépassé.
Ben, ouais, en fait, comme tu dis, je pense que c'est de plus en plus flou, et souvent, un designer peut faire de l'art et inversement. D'ailleurs, si on reprend l'exemple de Marco Godinho, lui, il a étudié le design graphique en même temps qu'il a étudié l'art. Donc, parfois, il fait des créations très, très, très design graphique dans des livres d'artistes ou des choses comme ça. Et je pense que c'est ces deux disciplines qui se croisent et qui se mêlent et qui ont tout intérêt à le faire. Et je reprends juste un terme en fait qui est peut-être très parlant aussi. C'est quand on parle de direction artistique. Donc quand on parle d'un directeur artistique, souvent c'est un designer ou soit graphique soit autre, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire quoi. On donne une direction artistique et tu parlais de sensation, d'univers, d'identité, etc. Donc effectivement, oui, les deux sont liés. Et je pense de plus en plus et c'est normal.
Mais c'est ça. En fait, je pense qu'on a les mêmes palettes, on a les mêmes couleurs de base entre designer et artiste. C'est juste qu'on en fait des choses différentes. Et pour exemple très concret, pendant mes études à l'université, il faut savoir qu'on partageait exactement la même bibliothèque avec l'école de design en fait. Chacun, on faisait des applications différentes, mais en fait, à la base, on avait la même matière en fait, les mêmes livres, tout pareil. C'est juste qu'on en faisait des choses différentes et c'était appliqué de différentes manières. Et dans ton cas, par exemple, toi, je pense que t'en fais deux usages en fait. T'as surtout ces performances où là, tu peux peut-être créer une expérience qui est totalement, qui est pleine en fait, qui est complète. Et voilà, il y a ce produit design derrière avec aussi cette vente de t-shirts, de maillots, pardon.
Après, si on prend le maillot en lui-même, si jamais vraiment j'avais été dans un produit design à fond, j'aurais fait un maillot de foot fonctionnel, entre guillemets. C'est-à-dire que là, c'est pas un tissu technique. Donc c'est pas, en fait, si on veut être très premier degré, c'est pas un maillot de football réel parce que il est pas fait pour évacuer la transpiration comme que ce soit tous les équipementiers ils font des
oui mais c'est un peu l'image de parce que là on va revenir en détail sur le design du maillot. Parce que tu reprends des coupes des années 50-60.
Ouais, c'est
déjà
ça.
À l'époque, c'était pas fait pour évacuer la transpiration.
Ouais,
je pense que tu restes un peu dans.
Bah, c'est vrai. Ouais, c'est totalement. En fait, j'ai essayé de reprendre les codes des maillots après-guerre, puisque c'est une période assez charnière dans la migration italienne. Et que ce soit la coupe, donc avec le col un peu montant, les manches longues. Le tissu très très épais et assez lourd. Bon, à l'époque c'était de la laine. Là j'ai pas pris de la laine, mais ça a des caractéristiques qui se rapprochent effectivement. Ouais.
D'accord. Et après moi je me posais cette question parce que j'ai pas trop trouvé. On pourrait s'attendre pour un maillot de foot italien à retrouver du vert ou du rouge. Quand est-ce qu'ils ont adopté le bleu pour leur maillot ? Ça s'est toujours fait
Ouais, en fait, c'est dès le début, c'était un hommage à la maison de Savoie, il me semble. Et du coup, le bleu azur, c'est la couleur de l'équipe d'Italie quasiment depuis toujours. Mais il y a eu une exception, c'est sous Mussolini où ils ont joué en noir.
Sinon,
en fait, c'est un peu devenu la couleur du sport italien, c'est-à-dire que même le basket, le volley, les skieurs, etc., ils sont tous en bleu, sauf les voitures de sport qui sont en rouge.
D'accord. Mais c'est intéressant, en fait, ce que tu dis, parce que moi, je pense que dans ce sentiment d'appartenance, d'identification, en fait, le maillot de foot, je pense que c'est l'objet qui vient absolument en second après le drapeau, en fait. C'est un drapeau, en fait. Un t-shirt, ça vient signifier une appartenance, soit un pays ou une ville. Et c'est pour ça que je me disais, voilà, le bleu, c'est une des rares équipes, en fait, à pas utiliser vraiment les couleurs principales de leur drapeau.
Bah oui, c'est vrai.
Je pense dans les grosses équipes, etc.
Après, il y a l'Allemagne qui joue en blanc. Mais c'est vrai que oui, la France joue en bleu, blanc, rouge. L'Espagne joue en rouge et bleu avec des touches de jaune. Donc le Brésil c'est jaune, vert, ouais, et bleu. Donc c'est vrai que souvent ça reprend.
En général, c'est les couleurs du drapeau. Voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Mystère, faudra approfondir.
Non, il y a une explication, mais il faudrait que je retrouve les termes exacts. Ouais. Parce que c'est un hommage à la dernière famille royale italienne.
Parce que c'est peut-être la couleur de la noblesse aussi en Italie, non, le bleu
Ah, je sais pas, il faudrait regarder.
De la royauté comme en France
Ouais, certainement.
Je pense. Hein. Si on est pays frontalier, donc il y a peut-être, ça a peut-être déteint, je pense, cette idée du bleu royal. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler, on en a déjà un peu parlé, des dessins en façade sur tes maillots, en fait sur le symbolisme entre la vague et les pointillés. Parce que tu en as déjà parlé, mais peut-être si tu avais des choses à ajouter sur,
ouais, ben,
sur ça.
En fait, quand j'ai fait le maillot Squadra Diaspora, donc de la diaspora italienne, j'ai voulu représenter quelque chose qui a tendance à s'estomper et à quelque part redevenir presque normal. Et je trouvais que l'onde représentait bien ce sentiment d'un immigré qui ensuite retransmet peut-être une certaine nostalgie à ses enfants, qui eux-mêmes retransmettent plus vraiment peut-être une nostalgie, mais une histoire à leurs propres enfants, etc., etc. Donc, en fait, le sentiment de nostalgie du pays, toi qui es portugais de saudade pour les Brésiliens, il est assez, je trouve, assez bien représenté par l'onde, parce que quand on voit une goutte tomber dans un verre d'eau ou dans l'eau, on voit qu'elle se disperse entre guillemets, et au fur et à mesure la surface redevient quasi normale, mais il y a eu un changement, il y a eu un apport. Donc je trouvais que ça représentait assez bien le phénomène de migration, parce que il y a ce côté déchirement à la base, et ensuite il y a un apaisement, mais en même temps il y a une transformation du lieu où ça arrive, donc il y a un enrichissement, donc d'où l'onde, et ensuite les pointillés pour le diaspora international, c'est une façon, ouais, de représenter le mouvement, peut-être, c'est-à-dire un trait aurait été peut-être un peu figé pour représenter un mouvement et un voyage, alors que le pointillé, voilà, représente, enfin, donne plus une sensation de mouvement.
Ouais. D'accord. Peut-être que pour être plus concret, tu pourrais nous rappeler le site internet pour que les gens puissent aller voir, et avant que je continue mes questions, peut-être en même temps.
Squadradiaspora.com. Vous pouvez voir du coup la map monde à l'entrée du site. Où vous verrez effectivement l'onde est plus ou moins resserrée en fonction de la présence italienne dans chaque pays du monde. Ça a été fait avec un tableau avec les vrais chiffres des présences italiennes dans le monde, donc voilà. Et vous pourrez voir l'objet, et si vous êtes intéressé, vous pourrez aussi l'acheter.
D'accord, le message est passé. J'avais un parallèle à faire entre le football et cette diaspora. Je voulais savoir quel lien tu faisais entre migration et mercato. Parce que j'ai vu un lien intéressant dans ces phénomènes de migration, on va pas revenir dessus, mais le mercato, c'est un peu le processus inverse. On fait venir des joueurs de toute nation pour dans un club, en fait. Parce qu'on parle de club, hein, pas pour les sélections nationales. Est-ce que toi, dans ton projet, t'as fait ce lien ou pas du tout, ou est-ce que ça te dit rien du tout ou...
Si, en fait, ça c'est aussi une question où on pourrait passer des heures. C'est-à-dire que il se passe des choses pas très claires dans le mercato avec notamment des joueurs qui viennent d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Donc, parfois, enfin, sans vraiment rentrer dans le détail, mais parfois on fait venir des joueurs en leur faisant miroiter des choses, on les fait quitter leur famille, parfois même on demande de l'argent à la famille. Enfin, il y a des histoires terribles avec des joueurs qui sont venus sans papier, sans rien, et voilà, on les a laissés à l'abandon dans les pays européens. Donc, il y aurait plein de choses à raconter. Mais, ouais, c'est vrai que, à la base, les clubs, bon, quand je dis à la base, c'est au début du football, les clubs avaient tendance à plutôt recruter des joueurs de leur ville, de leur région, et puis effectivement, avec la mondialisation, avec les transports qui se sont développés, etc. Le foot est devenu un business, donc dès qu'il y avait un joueur plus fort que les autres, tout le monde le voulait en fait. Donc ça a totalement changé l'idée du club d'une ville. Enfin, même si aujourd'hui, voilà, ça change rien à l'amour du supporter. C'est-à-dire que un supporter de Amiens, veut que son club gagne. Donc, ouais. S'il faut recruter un Roumain, un Polonais, un Allemand et un Algérien, bah, je pense qu'il aura rien contre. Après, il y a des exceptions comme l'Athletic Bilbao en Espagne. Eux, ils sont vraiment restés sur un aspect un peu identitaire comme ça, où en fait leur idée, c'est de recruter que des joueurs basques. Donc, encore aujourd'hui, malgré le système économique du football, etc., ils ont gardé ça et ça fonctionne parce qu'ils sont en première division. Ils ont eu vraiment une équipe intéressante. Ils ont été, je pense, il y a quelques années, en finale d'une Europa League. Avec cette équipe et cette idée qui est assez forte, je trouve, et qui est assez aussi respectable, parce que ça prend un peu le contre-pied du foot moderne, tout basé sur l'argent. Donc, ouais, il y a des parallèles à faire entre mercato, identité, migration.
Ouais, parce que moi, ce qui m'intéressait dans ce lien, c'était que... Dans le cas de la diaspora, tu as des populations qui se sont, alors on va pas faire du Zemmour, hein, qui se sont assimilées dans leur pays d'accueil. Et ce projet Squadra Diaspora, c'est la célébration, voilà, des racines de ces gens qui se sont assimilés et qui veulent retrouver d'une certaine mesure leurs racines. Et alors que dans le mercato, c'est des gens qui viennent d'horizons différents pour venir dans un club, mais qui aussi essayent de s'approprier en général la culture du pays aussi. En général, même les joueurs apprennent à parler la langue qui est apprise, qui est parlée dans le club. Donc est-ce que au-delà de ce retour aux racines, le projet Diaspora, ce serait pas aussi la célébration de l'universalisme en fait? Parce que je pense que tu abordes aussi certains sujets liés au racisme dans le foot en fait. Enfin, t'en parles pas directement, mais du coup ça résonne parce que on parle d'immigration, d'appartenance, voilà. Est-ce que ce serait pas ça aussi Squadra Diaspora?
Ben ouais, bien sûr. Là effectivement il y a eu des problèmes de racisme en Italie, mais pas que, dans les stades, et d'une certaine manière le projet Squadra Diaspora peut rappeler aux Italiens que eux-mêmes sont un peuple de migrants, et depuis toujours. Donc il y a aussi cet aspect-là à mettre en avant, je pense, et j'espère que ça peut faire écho. D'ailleurs, on va certainement jouer un match en Italie en 2021 contre l'AS Velasca. Toujours, ce sera le match retour. Et, Et voilà, j'espère que ça pourra avoir un écho. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que chaque match représente une certaine, un chapitre de l'histoire. Et pour le match en Italie, je vais essayer de convoquer des gens qui ont décidé de retourner en Italie. En fait, des gens qui sont nés à l'étranger, qui sont nés hors d'Italie, donc par exemple en France ou en Allemagne ou autre, et qui ont décidé de revenir un peu aux sources, qui se sont mariés avec des Italiens là-bas, qui sont restés là-bas, qui sont revenus, en fait. Il y a ce terme un peu polémique de remigration, mais c'est quand même intéressant d'analyser la chose, en fait, parce que ça existe. Et voilà, donc ce sera un nouveau chapitre du projet.
D'accord. Bah ouais, si j'ai abordé toutes ces choses, c'est parce que on pourrait se dire aussi que c'est un projet, tu sais, très je sais pas, nationaliste, parce que c'est très connoté, en fait, tu vois, mais le fait de se centrer sur la nation italienne, etc., on pourrait penser que c'est, tu vois, que c'est un projet exclusif, alors que non, pas du tout, au contraire, c'est de montrer comment on peut s'ouvrir, en fait. Et moi, j'ai pas eu de mal, par exemple, alors que je suis pas du tout italien, à me projeter, en fait, dans ton projet, moi qui suis d'origine portugaise, par exemple, parce que il est totalement incluant et il fait résonance à toutes les diasporas du monde, en fait.
Ben, c'est vrai que, pour la petite anecdote, il y a une personne juive qui m'a acheté le maillot en me disant que ça le touchait parce que ça faisait écho à sa propre histoire. Il n'était pas du tout d'origine italienne, etc. Mais j'avais un autre exemple aussi à donner. Quand j'organisais le premier match, c'était drôle parce qu'on avait les Italo-Belges qui étaient là et qui parlaient entre eux avec l'accent belge. On avait deux frères, donc Nicolas Sansonnet et son frère qui parlaient en allemand entre eux, les Français, bah, qui parlaient français, voilà, sans l'accent belge. Et puis, là, j'ai rencontré dernièrement un Brésilien d'origine italienne qui, voilà, s'il vient, il va parler en brésilien avec les autres Brésiliens. Donc, en fait, quand la Squadra Diaspora se réunit, c'est hyper intéressant de voir à quel point ça parle de personnes totalement différentes, d'horizons différents, qui sont réunis certes par un destin commun, mais on parle de différentes cultures, parce qu'effectivement toutes ces personnes-là qui sont nées dans des pays hors d'Italie, ils ont des racines italiennes, mais ils ont surtout la culture d'un autre pays, et c'est ça aussi qui est intéressant, non? Ce projet, c'est de rassembler des personnes du monde entier.
C'est ça. On va terminer cette partie sur les marques, en fait, qui sont du coup absentes des maillots que tu produis. Je voulais savoir quelle était ta relation à cet élément manquant, en fait, qui est très présent, en fait, sur les maillots de foot, en fait, les sponsors qui en viennent presque à défigurer les maillots dans certains cas. Peut-être je vais te demander si tu devais choisir un sponsor, par exemple, tu choisirais lequel?
Équipementier pour le maillot lui-même ou un autre
On va dire un
qui pourrait apparaître sur le milieu du maillot.
Ouais, genre plutôt dans les marques de sport, tu sais.
Je
vois mal le roi Merlin, tu vois, son...
Ouais. Non, en équipementier, j'aime bien Kappa. Et pas seulement parce que je suis chauvin et que c'est italien, mais parce que ils ont dessiné pour moi le plus beau maillot de l'ère moderne, c'est-à-dire le modèle Combat, qui est né en fait avec l'équipe d'Italie en 2000, mais avec ce même modèle, en fait, qui a traversé les 20 dernières années et qui est encore présent aujourd'hui, notamment avec l'AS Monaco, par exemple. Pour moi, c'est un peu le maillot. Et voilà, c'est un maillot que j'adore. D'ailleurs, il y avait des clubs français qui étaient équipés avec ce maillot. La JOCR, si je me trompe pas, il y avait aussi le RC Lens, le FC Metz, d'autres clubs anglais, italiens, la AS Roma, Brescia, etc. Et c'est un modèle vraiment qui m'a marqué et que je trouve magnifique. Donc ce serait, j'aimerais pourquoi pas un jour faire un maillot Kappa Diaspora. Et par contre, si je devais choisir un sponsor, ce qu'on appelle le sponsor maillot, c'est-à-dire qui est affiché à l'avant, ouais. Je sais pas, peut-être Ferrari.
Pas mal, ça pourrait le faire. Ils sponsorisent déjà des
dans
le foot?
Non, je crois pas du tout. Il y a Fiat qui est très présent. Qui est, en fait, c'est la même marque, Fiat Ferrari.
Comme c'est pas très grand public Ferrari, ouais, c'est sûr que c'est pas très judicieux de mettre ça sur des maillots de foot, mais pourquoi pas, hein.
Non, mais ce serait drôle de faire, par exemple, un des prochains matchs diaspora, qu'on arrive tous dans une Ferrari bleue avec la map monde.
Non, j'avoue, ce serait pas mal. Voilà, on va. Je sais pas si je posais une question. Je vais le poser quand même. Si t'as pas de réponse, c'est pas grave. Qu'aimerais-tu détruire dans le marché de l'art?
Qu'est-ce que j'aimerais détruire dans le marché de l'art? Bah, le marché de l'art. Voilà. Non, enfin, c'est vrai, il y a toujours cette question économique qui est là depuis toujours, en fait. Les artistes qui avaient leurs mécènes, etc. Les De Vinci, toutes ces références-là. Il y a toujours cette question économique, mais c'est dommage, en fait. Ça serait beau de pouvoir libérer l'art de ça, parce que je pense qu'on aurait des... Bah, plus l'art serait libéré de la question économique, et plus il pourrait être intéressant, je pense. Après, c'est difficile. Comment vivre après en tant qu'artiste, c'est compliqué, quoi, déjà.
Mais du coup, est-ce que tu garderais quelque chose dans le marché de l'art ou pas? Est-ce que tu détruisais tout?
Je garderais l'œuvre de Banksy,
ah.
qui s'est autodétruite.
Ah oui, oui.
Juste après le coup de marteau pour attribuer l'œuvre. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai envie de garder du marché de l'art.
C'est précisément ça, en fait, ouais. C'est un pied de nez au marché de l'art, ce qu'il a fait.
C'est un pied de nez au marché de l'art, mais en même temps, il a enrichi son acheteur, quoi. C'est fou.
Il a pris encore plus de valeur.
Ouais, c'est incroyable.
Est-ce que tu penses que c'était... il l'avait anticipé, ça, ou pas? Est-ce que tu penses qu'il s'est juste dit « Oh, ils vont être fous, ça y est, c'est...
Je
vais les mettre mal, ou... » Ou est-ce que c'est un tel génie qui s'est dit « Je sais que ça va reprendre plus de valeur encore derrière. »
Ben, je pense qu'il l'a, il l'a pas anticipé en tant que tel, c'est-à-dire qu'il l'a pas fait pour ça, mais il le savait, je pense. Il le savait qu'en faisant ça, ça aurait un tel raisonnement que évidemment l'œuvre prendrait une valeur incroyable.
Mmh. Ok. Bon, passons au portrait chinois que l'on fait de chacun de nos invités. Alors, le but du portrait chinois, c'est pas de nous dire ce que tu aimes dans ce que je vais te proposer, c'est vraiment qu'est-ce qui te représente le mieux.
Ok.
Donc, si tu étais un animal, voilà, si t'aimes les chats, je veux pas entendre parler de chats. Si toi, t'étais un animal, tu serais...
Je serais... Je sais plus comment il s'appelle cet animal hyper lent.
Paresseux.
Le paresseux, ouais, c'est ça, c'est le paresseux, ouais, je serais un paresseux. Parce que ça, c'est vrai que ça me correspond bien, je suis vraiment hyper lent, mais dans tout, quand je mange, quand je produis, même quand je regarde un match de foot, je suis lent, quoi.
C'est parce que tu es en pleine réflexion tout le temps, c'est ça?
Ouais, je pense.
Très bien. Si tu étais un pays, et je t'interdis l'Italie du coup, hein, parce que c'est pas rigolo.
Si j'étais un pays... Attends, je fais un peu le tour des pays là dans ma tête.
Avec l'Italie pour toi.
Non, en fait, un pays que j'adore, c'est la Belgique, mais ouais. Est-ce que ça me correspond? Je sais pas.
Est-ce que tu as un évadé fiscal?
Ouais, les îles Caïmans, ouais.
À la cool, quoi. Là, je pense que ça va être plus facile. Si tu étais un plat.
Si j'étais un plat, moi-même, je pense que je serais un plat de linguine. C'est-à-dire, tu sais, on a l'impression que c'est tout mou et tout. Et en fait, quand on l'a sous la dent, c'est, tu vois, c'est croquant.
C'est quoi des linguine?
C'est comme des spaghettis, mais plates.
Ah!
Donc je pense que je ferais ça parce que on a l'impression comme ça que je suis mou, mais en fait non.
D'accord. Si tu étais une célébrité, ce serait.
Si j'étais une célébrité, mais là c'est pareil. J'aimerais bien dire une célébrité que j'aime bien, mais je peux pas. Si j'étais une célébrité.
Pourquoi tu peux pas? Tu penses à qui?
Je pense à Andrea Pirlo.
Évidemment.
Mais
moi, je trouve que
il y a quand même
tempérament, il y a quelque chose.
Ouais, il y a quand même un truc.
Il est posé.
Que, en fait, c'est ça. C'est que on a l'impression qu'il est lent, qu'il est truc et tout.
Il réfléchit.
Mais voilà. Après, ce serait me lancer des fleurs de dire qu'il est il est pertinent,
il est efficace.
Il est efficace. En fait, j'aime beaucoup son jeu parce que il y a pas de fioritures. Et moi, souvent même quand je fais une création, j'aime pas qu'il y ait des fioritures, des trucs qui servent à rien. J'aime bien être efficace et que même dans la forme, ce soit le plus simple possible et le plus le plus efficace possible. Donc
tu serais pas du tout Cristiano Ronaldo.
Non, je serais pas. En fait, je serais pas un joueur brésilien, pas du tout. Je serais pas Cristiano Ronaldo. Je serais soit Pirlo, soit Totti.
Efficace. C'est les plus efficaces. Alors, si tu étais un film, ce serait
un film lent.
Ça t'entend beau, 7h30 de plan séquence très lent.
En fait, ouais, bon, c'est cliché encore une fois parce que italien, truc et tout, mais Le Parrain, c'est filmé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, si la scène réelle, elle dure 10 minutes, il y a 10 minutes dans le film, quoi. Du coup, le film dure 3 heures. Et c'est vrai que c'est... Ça aussi, c'est un film qui m'a marqué. On va dire ça, mais un peu cliché, mais bon, tant pis.
Si tu étais une couleur, ce serait.
Si j'étais une couleur,
je te vois regarder le maillot bleu.
Si j'étais, en fait, bon, c'est pareil, le bleu. Enfin, c'est un hasard, mais ça a été toujours ma couleur préférée.
C'est fou, elle est. Les deux derniers épisodes, c'était bleu aussi.
Et je crois que c'est souvent soit bleu, soit vert. Mais si je devais être une couleur, je sais pas, peut-être que je serais le rose, un genre un rose, un rose un peu pâle comme ça.
Non, je dis des bêtises. Romain, c'était rose aussi, oui.
Ouais. Bah, rose. Je vais dire rose. Rose pâle comme le fauteuil sur lequel t'es assis.
Et pourquoi rose pâle?
Je sais pas. Il y a un truc à la fois chaleureux mais pas agressif. Mais en même temps, tu vois, je pourrais pas être le rouge du sang ou de...
De la Ferrari.
Non, c'est
la
pas
passion aussi, le rouge.
Ouais, mais c'est pas un truc qui me correspond. Je pense que c'est trop agressif pour moi.
C'est trop énergique.
Ouais, tu vois, le rose, on est dans un entre-deux, quoi.
C'est ça.
C'est chaleureux, mais pas... Voilà, pas sans agression.
C'est ça. Et enfin, si tu étais une œuvre, ce serait...
Carré blanc sur fond blanc.
Très bien, ça marche. Pour finir, j'aimerais élargir un peu les horizons. Et d'après toi, comment tu penses que va évoluer le marché de l'art dans les 20 prochaines années? Et celui du football, en parallèle? J'ai une double question.
Pour moi, les deux sont liés, déjà. Parce qu'ils sont tous les deux liés au capitalisme. Donc,
t'es sûr que ta couleur c'est pas le rouge?
Non, mais c'est justement c'est pas forcément un truc que je défends, etc. Mais j'ai l'impression que là où il y a de l'argent, là où les gens, les choses se vendent cher, c'est toujours le même monde en fait, qu'on soit dans l'art, dans le foot, dans le luxe, dans n'importe quoi d'autre. Donc je dirais que ça va pas aller en s'arrangeant, quoi. Comme dirait
un message optimiste.
Emmanuel Macron, je vous souhaite bon courage.
D'accord. Est-ce que tu comptes t'ouvrir à d'autres pratiques ou est-ce que si tu devrais faire évoluer par exemple le projet Diaspora, ce serait sous quel médium? Est-ce que tu resterais dans le maillot et la performance, ou est-ce que tu pourrais envisager, je sais pas moi, d'écrire ou de produire un court-métrage, quelque chose?
Ouais, le court-métrage c'est quelque chose qui me plaît et que voilà, je de temps en temps j'expérimente, même si j'ai jamais vraiment abouti ou montré ça. Ça me plaît. L'écriture, en revanche, c'est pas trop mon truc. Même si, voilà, j'ai eu cette pratique de, entre guillemets, journalisme. Mais je sais pas, c'est pas un truc qui me plaît spécialement.
Tu t'exprimes plus en images.
Plus en images et... Enfin, de manière visuelle, ouais. En objet, en images. Après, non, ce que j'ai en tête, c'est de devenir footballeur professionnel.
Le premier footballeur pro artiste.
Ouais, en tant qu'œuvre, ouais, ça c'est un truc que j'ai envie de développer, vraiment infiltrer entre guillemets le monde du football. J'ai un petit peu commencé à faire ça avec le compte un compte Instagram où en fait, avant j'avais un compte Instagram perso comme on peut chacun en avoir un, et par exemple le selfie c'était pas un truc que j'aimais faire, exposer, etc. Mais depuis que j'ai un compte un peu artiste footballeur, je communique un peu de manière narcissique, parce que je vais dans le sens du personnage en fait. Le footballeur, on sait plus si c'est une star de rock ou un influenceur ou un footballeur, un sportif. Il y a une espèce d'ambiguïté qui est liée au capitalisme. Hein. On en revient à tout est lié entre l'art, le foot, la mode, le...
Ah, ça en devient même aussi des fois des vecteurs politiques, hein. Faut souvent, ou même sociétaux, faut vraiment, de par leur exposition, faut même très souvent qu'ils prennent position pour une cause ou même lors de grandes élections, etc. Alors qu'à la base, on joue au foot, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que dès qu'il y a une notoriété, en fait, on manipule la personne qui a cette notoriété. C'est-à-dire que, effectivement, ceux qui s'exposent politiquement, déjà, ils le font pas souvent de manière volontaire et pas souvent de manière subversive. Donc c'est bidon en fait, mais ouais, il y a un truc que je remarque là depuis un certain temps. C'est, enfin là j'ai un exemple en tête, c'est quand Paul Pogba il va en vacances, je sais plus si c'était aux États-Unis ou quoi, entre son transfert de la Juve à Manchester City, il fait faire un film de ses vacances, quoi, le mec. Tranquille, ouais, ben. Et du coup, le film est diffusé, on sait pas si c'est des indices pour son mercato, truc et tout. Enfin, c'est à la fois, c'est n'importe quoi. Ça représente un peu l'époque un peu bizarre dans laquelle on vit, où tout est marketé, tout est business. Et à la fois, voilà, c'est incroyable, quoi, à analyser en tant qu'artiste. Enfin, du coup, voilà, j'aimerais bien approfondir ça.
D'accord. Bah, ça se fait aussi dans le monde de la musique pour annoncer, en parallèle de la sortie d'un album. Il y a des artistes qui font carrément des films, en fait.
Mm.
Mais pas juste sur la production de l'album. Hein. Ça montre plein de choses différentes. Enfin, bref. Outre le match retour en 2021, est-ce que tu nous concoctes des choses pour le futur?
Avec le projet Squadra Diaspora, je vais essayer de... L'idée, c'est de faire un match performance dans tous les pays où la diaspora italienne a été importante. Donc j'aimerais, bon, là, cette année, si le coronavirus nous le permet, déjà organiser un match en Belgique en novembre, parce que ce sera les 5 ans de la première exposition du maillot. Donc retourner un peu aux sources du projet. Donc 2020 Belgique, 2021 Italie, et après 2022 et 2023, j'aimerais, on va voir si c'est possible, mais aller de l'autre côté de l'océan.
De quel côté? Dans quel pays?
Ben, il y a Brésil, États-Unis, Canada. Déjà ces trois-là.
Canada, je pense que. Enfin, aux États-Unis aussi, ouais. Enfin, c'est les deux. Enfin, je sais que personnellement, pour la diaspora, si on peut dire, portugaise, il y a beaucoup de personnes qui sont parties au Canada.
Ouais.
Je sais pas si pour les Italiens, c'est plutôt les États-Unis, non, que le Canada.
Il me semble que les États-Unis sont devant en termes, enfin, en nombre, mais elle est assez importante au Canada aussi. Et par exemple, il y a la Little Italy de Montréal qui est assez active. Chaque année, il y a une fête, etc. Donc ça aurait aussi un sens là-bas.
Et pour le mot de la fin, je vais te demander qu'est-ce que ça donnerait du coup l'accent italien québécois.
Waouh, alors là,
c'est dur à concevoir.
Ah ouais, attends, j'essaie d'imaginer Céline Dion italienne. René. Voilà, c'est tout ce que je dirais.
Bah, écoute, merci beaucoup.
Merci à toi.
Bonne continuation à toi et à très bientôt.
À bientôt. Thank you.